Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP et vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Antoine Boyer, bienvenue dans ce premier numéro, un podcast enregistré le 29 octobre 2018. Le concept de ce podcast, explorer cette Amérique profondément divisée, vous raconter cette période de turbulence dans un registre un peu décalé de nos standards habituels, vous décrire ce qu'on a écrit et filmé en insistant sur les à côté, les choses vues ou entendues, le making of audio des journalistes de l'AFP aux États-Unis.
So that we can keep making America great again.
Pour notre première balade sonore, je vous emmènerai devant la Maison Blanche, sur la colline du Capitole au Congrès américain, à la rédaction de l'AFP à Washington. Là, je vais discuter avec quatre journalistes de la rédaction avec un objectif, parler des élections de mi-mandat du 6 novembre et du premier scrutin national depuis la victoire de Donald Trump en 2016. Les enjeux locaux sont importants, mais ces élections législatives sont complètement dominées par la personnalité de Donald Trump. Objectif 6 novembre, Trump en campagne, on y va. Bonjour Jérôme Cartiguier, tu es l'un des deux correspondants de l'AFP à la Maison Blanche et on est en face de ton bureau là, c'est ça ?
Bonjour Antoine, oui absolument, de l'autre côté du parc.
Dans quelques jours, donc, les Américains ils vont élire 435 représentants de la Chambre basse du Congrès, un tiers du Sénat, des gouverneurs et des élus locaux. Et en fait, le premier républicain à faire campagne, c'est Donald Trump. Tu confirmes, hein ?
Oui, il est en première ligne. Il a expliqué lui-même qu'il était, c'est quasiment un référendum sur sa personne. Il s'est lui-même mis en première ligne. Le président, traditionnellement, est très présent sur des élections comme celle-là. Mais il est presque tous les jours en campagne, oui.
Avant de décrypter avec toi un peu ces meetings de campagne, j'ai envie de revenir sur les événements vraiment tragiques de cette dernière semaine, et notamment l'attaque antisémite, la pire de l'histoire américaine à Pittsburgh. T'étais avec le président ce jour-là, comment il a réagi ?
C'est une journée assez étrange qui reflétait un peu en un concentré sur 12 heures la façon dont Donald Trump réagit sur des grandes crises. C'est-à-dire qu'il a alterné toute la journée entre... On l'a vu d'abord dans Air Force One, il est venu à l'arrière là où les journalistes sont installés, le petit pool de journalistes qui voyage avec lui. Et il était véritablement affecté, je pense, par la violence, par le drame. Et puis, il a eu ensuite des propos très clairs pour dénoncer l'antisémitisme. Et dans le même temps, dans la même journée, il a aussi fait 40 allers-retours sur ses thèmes préférés, au moment où il appelait à l'unité, au rassemblement, quasiment dans la même phrase. Il tapait sur ses adversaires démocrates, il tapait sur les médias. Il y a eu une scène assez forte sur le tarmac en arrivant sur le site de son meeting du soir, où il a commencé par expliquer je vais changer de ton ce soir, étant donné la gravité de la situation, une attitude très présidentielle. Et dans la même phrase, quelques secondes plus tard, il a enchaîné pour justifier son ton traditionnel, beaucoup plus agressif, beaucoup plus provocateur, en disant que c'était la faute des médias. Donc c'est très frappant. Toute la journée, ça a été cette espèce d'aller-retour entre posture présidentielle et puis attaque et coup bas et provocation qu'il affectionne.
Et quelques jours plus tôt, il avait refusé, tu parlais de ton, il avait refusé d'adoucir son ton après l'envoi de colis piégés à plusieurs de ses opposants. Là encore, comment t'expliques ça ?
De la même façon, c'est une valse hésitation. Donald Trump ne peut pas se poser sur un ton, entre guillemets, présidentiel dans la durée. C'est pas possible. En tout cas, il ne l'a jamais fait depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche. Donc, il y a des pics, on va dire, qui sont quand même beaucoup liés à ce que lui conseille son entourage proche. Puis derrière, immanquablement, soit il y a un tweet, soit une réaction un petit peu à chaud comme ça pour dire son agacement par rapport aux médias ou pour enflammer sa base. On est toujours dans cette même logique.
Et parlons un peu des meetings, parce que donc tu suis Donald Trump et tu vas notamment à certains de ses meetings. La semaine dernière, il en a fait 4. Comment t'expliques qu'il aime autant ça ?
Alors, il y a une première raison politique, c'est qu'il a la conviction qu'il peut aider à porter certains élus républicains et à les faire élire. Ce qui est au passage un vrai débat, c'est-à-dire qu'incontestablement, il galvanise sa base. Incontestablement aussi, il galvanise la base démocrate, où tous les anti-Trump, qui plus ils le voient, plus sont tentés d'aller voter. Donc l'impact final sera dur à déterminer. Mais la raison principale, c'est qu'il adore ça. Trump adore être en meeting. C'est sa signature, c'est ce qui lui a permis de créer cette énorme surprise en 2016 en étant élu ici. Et véritablement, on sent, c'est quelqu'un dont le langage, le body language, comme on dit, est très facile à lire. On sent les jours où Donald Trump est angoissé, mécontent, inquiet. Et on sent aussi les jours où il est ravi, parce que les nouvelles étaient bonnes. Il est, de cette manière-là, il est très lisible. Et on voit bien en rallye, à quelques exceptions près, qu'il est tout le temps, il aime être sur scène, il prend du plaisir, il joue. et c'est palpable dès qu'on est dans la salle.
Et est-ce qu'on peut dire, sans bien sûr prendre parti, mais est-ce qu'on peut dire objectivement qu'il est bon?
C'est un excellent tribun, c'est un très bon orateur, c'est certain. Il a une manière, il a un certain humour. Récemment, par exemple, une des nouveautés, c'est qu'il se moque lui-même de sa fameuse chevelure qui a fait tant couler d'encre. Il a une manière de lui-même revenir sur le sujet, donc il sait bien travailler une foule et il est très attentif aux réactions de la foule à telle ou telle ligne, un peu comme c'est un showman. Donc il sait faire face à une foule de supporters et à une marée de casquettes rouges.
Je suis aux côtés d'Élodie Cuzin au Congrès américain, vidé d'une partie de ses résidents et les parlementaires dont beaucoup sont en campagne pour leur réélection. Élodie, tu couvres pour l'AFP la vie politique américaine et l'actualité parlementaire. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici?
Alors ici, on est au sous-sol du Sénat, dans un endroit où les sénateurs, quand ils sont là, arrivent en train, en petit train, depuis leur immeuble de bureau. Et ils viennent ici pour voter. Donc c'est le sous-sol, c'est là où les journalistes ont la meilleure chance de pouvoir les interroger sur les questions du jour, l'actualité, et leur demander de réagir. On entend en fond la sonnerie qui signale l'arrivée d'un train.
Toi, Élodie, tu as fait ton premier meeting de Donald Trump récemment, cette année en octobre, dans le Minnesota, où tu étais partie faire plusieurs reportages pour l'AFP. Si je te demande en un mot de décrire le meeting de Donald Trump auquel tu as assisté, tu choisis lequel ?
Alors je dirais ferveur des supporters, c'est vrai que c'est frappant, il faisait déjà froid dans le Minnesota à cette époque, donc vraiment tout début octobre, ils ont fait la queue pendant des heures pour pouvoir rentrer, puisque apparemment ils ne peuvent pas réserver en avance leur ticket, donc ils avaient attendu, ils étaient très contents d'être là, et quand enfin le président, après les musiques d'ambiance, etc., est arrivé, le président Trump, il y avait une grande ferveur dans l'atmosphère. Il y avait une réactivité comme ça, c'était vraiment ouais, comme s'ils étaient liés par un cordon et que voilà, une fidélité, une ferveur extrême, au point que du coup, quand justement il parle aussi des médias et qu'il attire l'attention pour faire huer les journalistes qui sont dans le fond de la salle, c'est un côté foule qui se retourne comme ça pour regarder les médias, qui est assez impressionnant quand on le voit pour la première fois. Surtout quand ça vient des mêmes personnes à qui on a peut-être parlé 5 minutes avant et qui étaient des charmants habitants du Minnesota qui parlent avec le sourire, etc. Mais qui, quand Trump dit « regardez les journalistes », se mettent à huer en cœur.
Dans un meeting de Trump, tu parles donc bien sûr au soutien, aux partisans. Ils te disent quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter dans ce meeting en particulier?
Une femme qui m'a marquée particulièrement, c'était une mère de famille qui faisait la queue avec son fils de 8 ans, qui avait son bonnet Trump, couleur camouflage, enfoncé jusqu'aux oreilles, mais qui encore une fois était quelqu'un de, par rapport au reste de la foule, qui était plus électrique et qui criait, etc. Elle était très calme, elle parlait d'une voix très calme, et elle m'a dit qu'en fait, elle avait jusque-là souvent voté démocrate, ou elle disait quelque chose de plus large, progressiste, aux élections locales, mais que Trump l'avait vraiment convaincue parce qu'il défendait, elle a cité le deuxième amendement, donc le droit de porter des armes parmi ses sujets principaux.
We're Trump supporters. We support our president.
I think if it's not closed, it's not a border.
This is so exciting. We get to meet our president of the United States, Donald Trump, who has made America great again, who has made promises and kept promises.
Éléonore Sens, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste vidéo à l'AFP et là, on est dans les locaux de l'agence France Presse à Washington. Tu as couvert la campagne de Donald Trump en 2016. Tu t'es rendu à de nombreux meetings. Et la semaine dernière, tu étais au Texas quand le président est allé soutenir son ennemi d'antan, le sénateur républicain Ted Cruz, en campagne pour une réélection plus difficile que prévu. T'as vu quoi là-bas?
C'est simple, hein. C'est un peu la même chose qu'en 2016. Les gens qui portent la casquette rouge, il y a une vraie euphorie des gens qui sont là. Les gens venaient beaucoup plus pour Donald Trump que pour Ted Cruz, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'ils disaient. On voyait partout des panneaux Trump 2020, comme quoi il est un peu déjà en campagne. Et puis, non, la vraie différence, moi, j'ai trouvé, en tout cas sur ce meeting-là, c'était le nombre de personnes. Il y avait énormément de monde qui était là. certaines personnes qui attendaient depuis la veille au soir, qui ont passé la nuit devant le stade où avait lieu le meeting.
C'était à Houston. Hein.
C'était à Houston. Alors après, moi, j'ai pas, en 2016, j'avais pas été au Texas, mais quand même, il y avait énormément de monde à ce meeting et ça m'a énormément frappée.
C'est quoi un meeting de Donald Trump ? Raconte-nous en quelques mots, ça se passe comment ?
Alors, c'est un vrai show, ça c'est sûr. Les gens arrivent avec la casquette rouge, « Make America Great Again ». Évidemment, c'est impressionnant. On voit une marée de gens qui portent cette casquette rouge, beaucoup de gens qui portent des accoutrements avec des drapeaux américains. Ça chante, ça crie. Pendant le meeting, la foule est vraiment galvanisée et notamment... Quand Trump appelle à conspuer les médias, à crier sur les médias, alors là, la foule est en délire total. Ils aiment bien, il y a tout un tas de slogans qui crient d'un meeting à l'autre, comme USA, USA. CNN sucks.
Ce qui veut dire CNN est nul, c'est ça.
CNN est nul, pour être gentil, voilà. Lock her up, pour dire mettre Hillary Clinton en prison, même si ça fait plus de 2 ans que la campagne est terminée.
Et ça, ils l'ont dit dans le meeting ?
Bien sûr, oui, ils le disent régulièrement.
La gestuelle de Donald Trump en meeting, c'est quoi ? Est-ce qu'elle est particulière ? Est-ce qu'elle te frappe ?
Ah oui, c'est sûr qu'il bouge beaucoup, il gesticule, hein, comparé aux événements un peu plus formels de la Maison-Blanche. Il a toujours le pouce levé, il regarde ses partisans. Bon, c'est sûr qu'on sent qu'il est dans son élément au milieu de la foule, il le dit lui-même. Hein. Je me souviens que j'avais été au meeting des 100 jours, donc c'était les 100 jours de sa présidence, il avait donné un énorme meeting. Et c'était le jour où il y avait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où pour la première fois, le président n'allait pas. Et il disait qu'il l'avait dit lui-même, qu'il préférait être avec ses soutiens qu'avec les gens de Washington à faire un bon dîner. Beaucoup de gens avec qui je parlais ressortaient des théories du complot, notamment que la caravane de migrants qui vient du Honduras avait été poussée par les démocrates et George Soros, quasiment la totalité des gens avec qui j'ai parlé, qui pensent ce genre de choses.
Sébastien Smith, bonjour.
Bonjour, bonjour.
T'es le correspondant également à la Maison Blanche. Tu écris en anglais et tu es arrivé il y a quelques semaines.
Ouais.
Ton premier meeting Make America Great Again, Sébastien.
Là, dans le Make America Great, j'avais l'impression que c'est 10 000 personnes. Ils adorent Trump. Ils vraiment adorent Trump. Tu peux pas le nier. Moi j'ai l'impression que tu es en face d'un, comme a dit mon collègue Jérôme, un showman. C'est un vrai pro dans le showman. Et on oublie un peu, je pense, qu'est-ce que c'est son carrière. C'est un vendeur. C'est toute sa vie à passer comme ça. De vendre des bâtiments, de vendre des idées pour des bâtiments. C'est un showman. Et les gens l'adorent, je pense. Il les emporte. Ils emportent avec son énergie, qui est remarquable, honnêtement, par quelqu'un de son âge.
Oui, ça, il a quand même 72
ouais,
ans.
Il a quand même 72 ans. Et il les emporte avec son fraîcheur. Il est différent. Il est vraiment différent. Et nous vivons dans l'époque où les gens veulent des leaders différents. On ne voit pas tout, pas tout.
Sur l'immigration, c'est un des thèmes favoris de Trump. Toi, tu es arrivé donc récemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier sur sa rhétorique, la rhétorique qu'il emploie sur l'immigration
Sur l'immigration, son rhétorique, c'est assez extraordinaire. Il utilise des mots d'une intensité ou même d'une violence qui est choquant, souvent choquant, je pense. Et aussi, il apparemment, de temps en temps, simplement invente des... Il invente. Par exemple, disant que cette fameuse caravane de quelques milliers de personnes d'Amérique centrale, des gens pauvres qui vont à pied, ils sont au Mexique maintenant, ils veulent arriver aux États-Unis, qu'entre eux, il y a des gens du Moyen-Orient. Il n'y a aucune preuve que c'est tout. On n'a aucune idée d'où ça vient. Et ça montre comme il est un président différent.
Dans le Minnesota, tu es partie pour l'AFP, Elodie, pour couvrir la campagne électorale. Et le Minnesota, c'est un état clé, ça va être un état clé pour cette élection. Est-ce qu'il y a quelque chose pareil dans le lien avec Donald Trump qui t'a marqué, des électeurs que tu as rencontrés, voilà, des choses que tu pourrais nous raconter ?
Mais ça, c'était très intéressant pour moi, c'est justement de sortir de la bulle de Washington, qui est ici très intéressante au Capitole, où on voit vraiment le cœur de la politique. Mais voilà, d'aller sur le terrain et sortir aussi des meetings de Trump où il y a un certain type d'électeurs qui va les plus convaincus. On est allé dans le nord, tout au nord du Minnesota. Le maire d'une ville minière nous disait, nous, on a voté religieusement, traditionnellement pour les démocrates pendant 30 ans et en fait ils nous traitaient comme des ordures parce que on est des mineurs et que c'est pas propre et que l'environnement, etc. Et on se sentait traité comme des moins que rien. Et lui, il nous défendait. Et ça a vraiment, ça m'a permis de comprendre que le message de Trump sur les mines, sur l'économie, qu'il avait réussi à s'adresser à des gens qui se sont sentis oubliés. Que les démocrates doivent maintenant tenter de récupérer s'ils veulent gagner. On a parlé à beaucoup de femmes qui vont être clés dans cette élection. Et notamment, une qui m'a marquée, c'était une électrice très conservatrice, en étant tout à fait ouverte, etc., mais qui était pour elle, qui est une militante anti-avortement. Pour elle, le sujet principal de l'élection en 2016, c'était la Cour suprême, les juges à la Cour suprême conservateur, et qui nous raconte que le jour de l'élection en 2016 a été le jour le plus difficile de sa vie. Qu'elle ne voulait pas voter pour Donald Trump. Elle nous a dit dans ses mots, c'est un homme que je ne respecte pas, je ne le croyais pas. Je pense qu'il traite mal les femmes. Et je ne le croyais pas quand il disait qu'il était contre l'avortement. Mais au final, j'ai décidé de voter pour lui parce que je savais qu'il voulait nommer des juges conservateurs. Là-dessus, je l'ai cru. Et pour l'instant, je ne suis pas déçue. Elle nous disait ça juste avant la confirmation du deuxième juge. Et elle ajoutait, s'il fait rien de catastrophique d'ici là, elle pourrait tout à fait revoter pour lui en 2020.
Marque, en fait, c'est le soutien considérable des Républicains. Je crois que c'est 90% qui ont une opinion favorable du travail accompli par Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment t'expliques ce succès, sa base?
La première chose, c'est qu'il a sur deux ou trois sujets forts, on va dire sur deux sujets très forts. Un qui était la Cour suprême et qui, encore une fois, on ne peut pas sous-estimer l'importance pour toute une partie de l'électorat américain. Et deux, sur les baisses des impôts, qui est un sujet très concret, très, très quotidien, qu'il a mis en place, qui pose d'autres débats sur son impact d'un point de vue macroéconomique. Mais sur ces deux points-là, incontestablement, il a fait ce qu'il avait promis.
Et au contraire, il est high chez les démocrates. Je pense qu'on peut quasiment parler de haine. Je ne sais pas ce que tu en penses, que ce soit chez les électeurs ou chez les politiciens.
Oui, il y a un sentiment anti, il y a une vague, un sentiment anti-Trump extrêmement fort, extrêmement fort.
Ils sont où les démocrates dans cette campagne?
Alors les démocrates, ils sont présents, ils ont opté pour une stratégie qui consiste à dire on ne fait pas de grands messages nationaux, l'important c'est d'aller arracher chaque siège un par un, de décrocher une majorité au Congrès, à la Chambre des représentants, et ensuite une autre conversation débutera qui sera qui portera les couleurs pour 2020. Mais donc cette conversation-là, elle va commencer le 7 novembre au matin, au lendemain des élections. Donc c'est pas surprenant et c'est assez classique dans l'histoire politique américaine que le parti d'opposition attende le lendemain matin pour dire bon voilà, on ouvre le débat. Il y a au moins une vingtaine de candidats sur les rangs pour porter les couleurs, pour aller défier Donald Trump en 2020. Ce débat-là commence dans une semaine.
Donc on a beaucoup entendu les médias parler de vague bleue, donc la couleur du Parti démocrate. Trump, lui, parle de vague rouge. On est un peu perdu là, il faut qu'on surfe sur quelle vague? Sur quelle vague doit-on surfer?
Alors il se peut qu'il n'y ait pas de vague du tout, mais comme tu le disais, c'est surtout les démocrates avaient bien pris garde de ne pas parler de vague, eux, parce qu'ils voulaient mobiliser leur électorat, ils ne voulaient pas donner l'impression que la victoire était facile, surtout que dès le départ, les analystes et les politiques eux-mêmes savaient que le Sénat serait très difficile pour les démocrates. Donc il est très probable que les républicains gagnent, voire augmentent leur majorité au Sénat, même si les démocrates enregistrent une grande victoire à la Chambre, ce qui est possible. Ils doivent gagner une vingtaine de sièges pour prendre la majorité. Et on va voir selon la dynamique électorale ce qu'il en sort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a trop d'élections qui sont encore trop serrées pour qu'on sache clairement ce qui va en ressortir. Donc, vague ou gouttelette, on ne sait pas encore.
Quel effet ces élections vont avoir, bien sûr en fonction du résultat, mais sur la suite du mandat Trump?
Bon, évidemment, il utilise ces élections comme la base de son réélection. Et finalement, comme on peut voir dans toute sa carrière encore, et dans tout ce qu'il a écrit et a dit pendant les décennies, le sujet qui intéresse Donald Trump, surtout, c'est Donald Trump. Il transforme ses élections un peu en A, référendum sur lui, et B, préparation pour son campagne.
Campagne 2018 pour le Congrès fait ressurgir chez lui, et ça revient très très vite dans le discours, la question de 2020 et de sa réélection. Donc il a dit urbi et orbi qu'il serait candidat en 2020. On sent qu'il a déjà envie de se projeter là-dedans. Il y a généralement une petite prudence chez les présidents pour avant les midterms pour pas se projeter trop vite, et lui on sent que ça le démange. Donc dès qu'il a l'occasion, par exemple sa nouvelle ligne d'attaque, c'est de prendre un par un les noms qui sont cités dans le camp démocrate et de décocher ses flèches, d'inventer des surnoms, etc. Donc on sent qu'il trépigne déjà à l'idée de 2020. C'est très frappant, c'est très palpable depuis une quinzaine de jours.
Le 7 novembre, c'est le début de la campagne ou 2020, ou ça a déjà commencé?
Non, c'est vraiment le début de la campagne. Et il est clair qu'il va basculer complètement sur cet horizon-là à partir du 7 novembre. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il aime faire. Il aime la lumière à tout moment. C'était frappant. Je pensais l'autre jour, certaines pendant les vacances d'été, lorsque traditionnellement, que ce soit Barack Obama ou Donald Trump, ils s'éloignent un petit peu de l'intensité de la lumière médiatique, simplement parce qu'ils sont en dehors de Washington, qu'ils sont moins dans l'actualité. Et on a senti l'été dernier, par exemple, que Donald Trump ressentait une forme de frustration. Donc il est sorti, il a fait plus de conférences de presse improvisées avec les journalistes qui le suivaient, simplement parce que cette absence de lumière médiatique lui manquait. Donc il va jeter toutes ses forces dans cette bataille-là. Elle est évidemment incertaine, elle sera longue et imprévisible.
Le premier numéro de Fragments d'Amérique, enregistré le 29 octobre 2018, s'est terminé. Un grand merci à Élodie Cuzin, Jérôme Cartillier, Sébastien Smith et Éléonore Sens, ainsi qu'à toutes les équipes. Rendez-vous sur nos comptes Twitter pour suivre l'actualité des midterms. Et moi, je vous dis à dans un mois pour de nouveaux échanges avec d'autres collègues de l'AFP Amérique du Nord.